Bonjour et bienvenue dans Du poil sous les bras. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai mis un pied, de même, dans le sud-est où je vais très rarement. Il m'aura fallu tout l'intérêt d'un livre dans lequel il est question d'héritage pour que je visite le campus Carlone de Nice, un campus universitaire depuis lequel on a une superbe vue sur la baie et la mer. Franchement, c'est très sympa. Bon, après, le maire de Nice, c'est Estrosi, donc ça c'est moins sympa, sauf si on aime les caméras de surveillance et les chiens miniatures. Oui, parce que, avant qu'on parle sérieusement, là, tout de suite, eh bien, la chose qui m'a le plus marqué à Nice, ce sont les mini-chiens qu'ont toutes les vieilles dames. Enfin, peut-être pas toutes, peut-être il y a des vieilles qui ont des chats aussi. Mais ce sont des chiens, on dirait, génétiquement modifiés, faits sur mesure pour Nice. Ils ont des petites pattes pour marcher à deux à l'heure. Et puis, ils font des tout petits cacas, je suis sûre. Ils mangent des toutes petites croquettes. Mais ils ont aussi, j'imagine, une présence inversement proportionnelle à leur taille. Bref, c'est pas le sujet du jour. Désolée si vous aimez les chiens, mais on a bien mieux à faire avec une niçoise qui est mon invitée et qui, j'espère, n'a pas de petits chiens. J'ai pas pensé à lui demander si les gens comme elle avaient des chiens nains. D'ailleurs, comment sont-ils, les gens comme elle ?
Alors, les gens comme moi, je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que les gens, je sais pas trop ce que c'est. Moi, je ne sais peut-être pas non plus. Souvent, les gens, on désigne vaguement un groupe. C'est assez vague. C'est les gens, les jeunes, on est dans les généralisations. Et donc, je saurais pas répondre à les gens comme moi. Après, je suis universitaire. Et en tant qu'universitaire, j'aime beaucoup, beaucoup les livres. J'adore remonter dans le passé, trouver dans le passé des forces de proposition pour penser aujourd'hui. Je suis aussi enseignante. J'adore les étudiants. J'adore transmettre aux étudiants ce que je trouve dans ces textes du passé. Je suis aussi de notre société et je vois des transformations de cette société qui sont à interroger ou à, en tout cas pour lesquelles les expériences du passé, les théories du passé peuvent être un puissant levier d'interrogation pour cesser d'être simplement face à l'évidence du présent, l'évidence des institutions telles qu'elles fonctionnent. Et voilà, peut-être que tout ça configure un moi, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres gens comme moi.
Si, si, il y en a des gens comme elle, des intellectuels. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Je suis pas Trump ou Ciotti. La connaissance ne me rebute pas. Je ne crache pas sur les savoirs, sur la science. Je pense que tout ça, au contraire, nous aide à comprendre le monde. Alors quel intérêt, me direz-vous ? Bah, de pouvoir se battre pour une société plus juste, d'éviter de se retrouver avec des gens comme Trump ou Ciotti, justement. Allez, sans plus attendre, bonjour Mélanie.
Bonjour, je suis Mélanie Plouvier, je suis maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Côte d'Azur, à Nice. Je suis spécialiste du 19e siècle, et plus particulièrement de la philosophie sociale et politique du 19e siècle. Je m'intéresse depuis quelques années aux théories de l'héritage qu'on trouve dans ce 19e siècle mal connu, et je publie un livre à la découverte qui s'appelle « L'injustice en héritage, repenser la transmission du patrimoine ».
C'était pas gagné que ça me passionne, ce bouquin. Non pas que je pense que le sujet n'est pas intéressant, mais comme je n'y avais pas réfléchi, je voyais pas trop ce que j'allais apprendre. On est une société d'héritiers, oui, bon, ben, ça je le sais déjà. Le travail paie moins que l'héritage, mieux vaut hériter que de travailler, ben, ça je le sais déjà aussi. Et puis en plus, j'avais vu que le bouquin parlait un peu d'histoire, l'Ancien Régime, la Révolution française. Et moi, j'ai pas beaucoup de notions d'histoire, alors j'avais un peu peur. Voilà, cerise sur le gâteau, Mélanie Plouvier est philosophe, et j'ai toujours l'impression que je vais être larguée quand je parle à une philosophe, qu'elle va faire des grandes phrases qui vont pas m'inspirer autre chose que « Ah, ok ». Et puis, je me suis plongée dans l'injustice en héritage, repenser la transmission du patrimoine, et j'ai appris plein de trucs. J'ai fait des découvertes très intéressantes, et quand j'ai finalement été m'entretenir avec Mélanie Plouvier, j'ai rencontré une personne joyeuse, accessible, pédagogue, passionnante. Alors évidemment, eh bien, j'ai pensé à vous, fidèles auditeurs et auditrices de Du Poil Sous les Bras, fidèles ou infidèles hein, d'ailleurs. J'espère en tout cas que cette petite heure ensemble va vous permettre de réaliser à quel point l'héritage est un impensé politique aujourd'hui, et que c'est bien dommage, parce qu'en plus ça n'a pas toujours été le cas. Du poil sous les bras avec Mélanie Plouvier, et bien c'est parti.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Commençons par le commencement, à savoir pourquoi Mélanie Plouvier a eu envie de s'interroger sur ce qui semble être une évidence qu'on ne questionne pas.
Le point de départ de tout ça, c'est que aujourd'hui, l'héritage est de plus en plus important. Il compte de plus en plus dans le fait d'avoir ou de ne pas avoir du patrimoine. Et c'est un fait qui ne cesse de croître depuis les années 1970. Et c'est Piketty qui l'a montré dans son ouvrage Le Capital au XXIe siècle. On assiste à un retour de l'héritage. Alors qu'est-ce qu'on dit quand on dit retour de l'héritage ? On dit que antérieurement, il y avait un poids comparable, si ce n'est identique, mais comparable à celui que l'héritage est en train de retrouver. Et la société avec laquelle on compare nos sociétés contemporaines, c'est les sociétés occidentales du 19e siècle. En gros, quand on parle de retour de l'héritage, on parle d'une comparaison entre la société française du 19e siècle et la société française contemporaine. Et vraiment, ce qui, moi, m'a plongé dans cette question, c'est que au 19e siècle, il était, alors même qu'il y avait donc un poids comparable de l'héritage, aujourd'hui, on parlait sans cesse d'héritage. On en parlait dans les débats politiques, on en parlait dans les débats publics, on en parlait dans les livres de philosophie, on en parlait dans les journaux, on en parlait dans... Vraiment, c'était une question qui était omniprésente. Et ce qui est frappant, c'est le contraste avec aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, alors même que l'héritage retrouve un poids comparable à celui qu'il avait au 19e siècle, on en parle relativement peu. Et c'est ce contraste qui, moi, m'a donné envie de plonger dans le 19e siècle pour explorer ces théories de l'héritage et voir ce qu'elles avaient encore à nous dire aujourd'hui.
C'est un des points du livre de Mélanie Plouvier, on ne génère plus de réflexion autour de l'héritage. Ce dernier, politiquement, n'est abordé que sous l'angle de sa fiscalité. On taxe à 10%, à 60%, à 0%, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'héritage ne se réduit pas à sa fiscalité. Penser l'héritage, c'est beaucoup plus complexe que cela.
C'est là aussi où l'héritage est une institution surprenante. L'héritage, c'est très concrètement, à la mort d'une personne, la transmission de ses biens. Donc derrière la question d'héritage, il y a la question que deviennent les biens d'une personne à sa mort. Ça, c'est le sens immédiat. Et donc, il est d'abord question de transmission matérielle. Bien évidemment, vient aussi d'autres questions dont on parle beaucoup aujourd'hui, parfois au détriment de l'héritage matériel, qui est la transmission, on va dire, culturelle, l'héritage culturel, ce qu'on lègue à ses enfants en termes de capital scolaire, de capital culturel, d'aisance dans la société. Mais moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est ce sens matériel, les successions, les transmissions de patrimoine, que ce soit de l'argent, une maison de famille, des bijoux, des actifs financiers, des entreprises, etc., à la mort de leur propriétaire. Donc ça, c'est vraiment le sens dont je pars. Mais ce qui est assez fascinant dans cette transmission, c'est que se cumulent plusieurs dimensions de nos vies. De ce point de vue, l'héritage, c'est un entrecroisement assez fascinant, parce qu'en fait, cette transmission, elle est organisée juridiquement. C'est ce qu'on appelle le droit successoral. Vous ne décidez pas à qui vous allez transmettre vos biens. La loi détermine pour une grande part ce qui va advenir de vos biens. Et là, avec des, c'est assez fascinant aussi, de très grandes différences juridiques d'un pays à l'autre. En France, l'héritage est partagé à égalité entre les enfants. Aux États-Unis, on peut déshériter ses enfants. Donc c'est assez fascinant de reconstituer ces histoires différentes de la loi successorale. Donc d'abord, c'est une transmission organisée par un droit qui constitue une dimension constitutive de ce qu'est la famille. Alors vous voyez, c'est des flux d'objets de biens saisis par du droit, mais qui font la famille. Voilà, il suffit de penser à ce qu'est une maison de ce que peut constituer pour les membres de la famille une maison de famille ou un objet qui a été transmis. Donc on a comme dans cette transmission se joue comme l'ossature matérielle de la famille. C'est des objets, mais il y a de l'affect dans ces objets. Et puis c'est aussi des questions plus largement, et c'est ça qui est assez fascinant, qui donne son épaisseur à l'héritage, c'est aussi des questions un peu en philosophie, on dit métaphysique ou existentielle. Qu'est-ce que je laisse après ma mort? Est-ce que, c'est une des grandes questions que je traite dans ce livre, c'est est-ce que je ne laisse que de la matière à mes enfants, ou est-ce qu'il n'y a pas des contributions plus importantes? Est-ce que les destinataires, c'est simplement mes proches, mes enfants, ou est-ce que je ne lègue pas quelque chose plus largement à l'humanité, on pourrait dire aujourd'hui aussi à la Terre. Enfin voilà.
J'aime beaucoup cette formule, l'épaisseur de l'héritage. Parler d'héritage, essayer de décortiquer ce dont il est question, c'est parler fiscalité, finance, égalité, justice sociale, famille, culture, travail, propriété, bien sûr. Et la question de la mort est centrale, mais elle pourrait ne pas l'être. On pourrait penser l'héritage à d'autres moments.
Exactement, enfin c'est ça qui est tout à fait... Dès qu'on commence à creuser la question de l'héritage, on se rend compte de toute une série d'évidences que nous ne cessons d'avoir, de poser, sans même nous en rendre compte. Vous en avez, celle que vous venez de donner en est une. Effectivement, nous concevons comme naturel, nécessaire, évident, comme allant de soi, que les biens, nos biens, à notre mort, iront, alors dans le cas français, à nos enfants. Et ce faisant, on considère que c'est que finalement cette transmission familiale de la propriété est comme une extension du droit de propriété individuel. Et ce qui est fascinant, alors quand on se tourne vers le 19e siècle, mais on peut le faire depuis aujourd'hui, ce qui est perturbant, c'est de commencer à se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui justifie que on conserve un droit sur les biens, sur nos biens, à partir du moment où on ne saura plus? Très concrètement, prenons le droit de propriété. Du droit de propriété, nous ne cessons de déduire que nous avons le droit de transmettre. Voilà. Nous faisons une séquence nécessaire, naturelle, entre je possède, j'ai un droit de propriété et je transfère ce droit de propriété à mes enfants. C'est un lieu commun, c'est une évidence, ça va de soi. Ce qui est très intéressant, c'est quand on commence à interroger cette évidence. Prenons le droit de propriété et demandons-nous, est-ce que ça inclut de soi le droit de transmettre? On peut fonder le droit de propriété sur le travail. La tradition libérale fait. Je suis le légitime propriétaire des fruits de mon travail. En gros, oui, la nature ne m'appartient pas d'emblée, mais à partir du moment où je mets de mes forces dans la nature, je deviens le légitime propriétaire de ce travail. Si on prend un tel ancrage libéral du travail, qu'est-ce qui justifie l'héritage? L'héritier, est-ce qu'il a travaillé? Il n'a pas travaillé. Il est propriétaire d'un bien dans lequel il n'a pas mis de travail. Ce sont ses parents ou ses grands-parents qui ont mis du travail. Donc vous voyez, quand on prend par exemple la justification libérale de la propriété individuelle dans le travail, il n'est pas dit, c'est plutôt l'inverse, on a du mal à voir qu'est-ce qui justifierait que l'héritier soit le légitime propriétaire du bien dont il hérite, parce qu'il n'a pas mis de son travail dedans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est dans cette interrogation, de se dire, mais finalement, à partir du moment où on interroge ce lien entre héritage et propriété, on en vient à l'idée que finalement, peut-être que le droit de propriété devrait être un droit, le droit de propriété individuel devrait être un droit strictement réduit au temps de vie de l'individu. Les auteurs que j'ai étudiés, je les ai cherchés, je les ai repérés, etc. Mais les auteurs que j'ai été lire, repérer dans le 19e siècle, c'est des auteurs qui disent mais il n'y a rien qui justifie que l'on étende le droit de propriété individuel au-delà du temps de vie de l'individu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'extension que nous ne cessons de faire, c'est-à-dire le fait de finalement vouloir conserver un pouvoir sur les biens par-delà notre mort, bah, Mirabeau le dit magistralement, c'est une sorte de refus de la mort. C'est une tentative de persister par-delà la mort, à travers les biens. Et ce que comprennent parfaitement les révolutionnaires, c'est que ce faisant, à travers l'héritage, c'est un pouvoir des morts sur les vivants. C'est un pouvoir des générations anciennes sur les jeunes générations. Parce que, bah oui, il y a ce poids de décisions antérieures sur l'avenir.
Puisque je suis avec une philosophe, c'est l'occasion de lui poser ces questions qu'on ne se pose pas d'habitude. Pourquoi ne pas voter une loi qui dicterait ce qu'il adviendrait de nos biens à notre mort? Une loi qui, si elle était juste, s'attacherait à rétablir un peu d'égalité entre les concitoyens et les concitoyennes. Après tout, de quel droit les morts décident pour les vivants? En plus, les morts le sont de plus en plus tard. Cela m'amène à poser la question, évidemment, de l'âge et de la temporalité de la succession. Ça tombe bien, c'est tout à fait le genre de question que pose Mélanie Plouvier dans son livre.
C'est d'ailleurs une grande différence entre le 19e siècle et aujourd'hui. Il faut prendre la mesure de ce changement démographique. Au 19e siècle, en 1820, on héritait en moyenne à 25 ans. Aujourd'hui, on hérite en moyenne à plus de 50 ans. Et encore, vu que les droits du conjoint survivant ont été étendus, en fait, on hérite de la pleine propriété, le conjoint survivant conservant l'usufruit, on hérite en moyenne de la pleine propriété, donc complètement, à environ 60 ans. Donc 1820, on héritait à 25 ans, aujourd'hui on hérite en moyenne à 60 ans. En d'autres termes, les héritiers aujourd'hui, tout le monde n'est pas héritier, mais les héritiers aujourd'hui ne sont plus les jeunes hommes qui vont dilapider la fortune parentale telle qu'on les trouve par exemple dans les romans de Balzac. Les héritiers aujourd'hui, ce sont des personnes âgées. Et si on y réfléchit bien, les flux d'héritage aujourd'hui, ce sont des flux économiques qui vont de personnes très âgées, 70-80 ans, vers des personnes âgées, 50-60 ans. Et donc là, se posent deux questions. Il y a une première question qui est celle de l'efficacité. Enfin, même les économistes le disent. André Masson, par exemple, le dit très bien, qui est un économiste spécialiste du vieillissement de la population, il le dit très bien. C'est quoi l'efficacité économique d'une arrivée d'argent, en gros, au moment où on part à l'âge de la retraite. Voilà, c'est tard, c'est très très tard, et c'est autant d'opportunités antérieures, par exemple, qui n'ont pas été possibles. Puis ça pose une seconde question, qui est une question de justice intergénérationnelle. Parce que, grosso modo, hein, les 60 ans d'aujourd'hui ont connu une insertion sur le marché du travail assez plus aisée que les générations d'aujourd'hui, et ils bénéficient de flux de patrimoine qui sont concentrés sur leur personne. Et donc, ça pose un problème de justice entre les générations. On parlait de retour de l'héritage, c'est même en un sens une aggravation. Parce que ce retour, il se fait dans des conditions démographiques qui défavorisent vraiment la jeunesse. Et donc, effectivement, ça pose la question de ce que... On prend l'héritage pour une évidence, mais on pourrait quand même commencer à s'interroger sur les outils qui sont disponibles pour réorganiser l'héritage, pour que, par exemple, il soit moins injuste entre les générations.
Sonno e libero. γιορνού. Πητεία νουν πότσου ώρα κι ουδουρμύρι. Πάτσι νουν να βικιού στα φρυτού κόρη. Λούσα η κουανούκα ήου τα ιου αλασάρι. Finisce mori, lo sai quando caio, taio alla sari, quando la vita mia finisce mori, mi voto e mi rivoto sospirano.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Notre système d'héritage laisse les morts gouverner les vivants. Même si l'on pense qu'il est juste d'hériter par la naissance, pourquoi pas, mais on pourrait tout de même le remettre en cause. Mais même si on pense cela, on réalise à quel point on s'enferme dans un système où c'est la mort qui décide. Dans son livre, Mélanie Plouvier propose des voies différentes. On pourrait repenser l'héritage pour qu'il émancipe et libère. Un héritage libéré, par exemple, du poids de la famille et du biologique. Un héritage dont on pourrait corriger les excès pour qu'il soit moins inégalitaire. C'est pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui, hein. On est très loin de ça, puisqu'il y a un retour de l'héritage.
Ce retour de l'héritage pose des problèmes de justice sociale, c'est-à-dire de la distribution des inégalités. Dans une la société n'est pas une société d'égaux matériellement, hein, économiquement, et donc la problématique de la justice sociale, c'est une réflexion sur les justifications de telle ou telle inégalité. Le retour de l'héritage aujourd'hui pose un premier problème de justice sociale, c'est celui du rapport entre le capital et le travail. Dans des sociétés où l'héritage pèse, certaines positions patrimoniales, certaines détentions de capital, sont plus facilement accessibles par l'héritage que par le travail. Il y a un exemple je le prends souvent, cet exemple, parce que il illustre ça simplement. J'adore Balzac, que je lis tous les soirs. Et le passage auquel je pense se trouve dans Le Père Goriot. Rastignac, c'est un jeune aristocrate, mais désargenté de province, qui monte à Paris pour faire son droit. Et il veut réussir, il en veut. Et il n'a pas beaucoup d'argent, donc il loge dans une pension un peu miteuse, la pension Vauquer. Et il y rencontre alors Le Père Goriot, mais aussi Vautrin, qui est un ancien forçat, un gars pas très recommandable. Et il y a un passage du Père Goriot où Vautrin, qui voit bien que Rastignac veut réussir, lui donne quelques conseils. Et que dit Vautrin ? Il dit « Rastignac, si tu veux réussir dans la vie, tu n'y arriveras jamais par la voie du droit, par la voie des études de droit. » Et alors là, Balzac est absolument génial. Il donne une description de toutes les possibilités professionnelles offertes par la meilleure des carrières en droit. Donc, vraiment, c'est détaillé. Hein. On voit, on imagine Rastignac qui réussit brillamment, qui arrive à obtenir les postes les plus élevés dans la carrière professionnelle juridique. Et ce que dit Vautrin, c'est que la meilleure des positions offertes par le travail, par l'effort, par le mérite, elle est ridicule par rapport à ce qu'apporterait un beau mariage. C'est quoi un beau mariage? Vu que Rastignac n'est pas lui-même un héritier, c'est épouser une héritière. Ça, c'est un premier problème de justice sociale posé par l'héritage. C'est que certaines trajectoires, certains biens deviennent inaccessibles par le seul travail. Et ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés. C'est-à-dire que, par exemple, dans la période de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 1970, on pouvait accéder à des hautes positions patrimoniales par le travail. Nos grands-parents ont pu avoir une résidence, voire une résidence principale et une résidence secondaire par leur travail. Donc ça, c'est un premier problème de justice sociale. Le second problème de justice sociale, c'est la manière dont c'est distribué parmi la population. Et ce qui est très frappant, c'est que les sociétés dans lesquelles l'héritage pèse sont des sociétés dans lesquelles le capital, le patrimoine, les biens sont très inégalement distribués. On parle de concentration patrimoniale, c'est entre quelques mains. À la rigueur, si tout le monde héritait, que ça vienne du travail ou de l'héritage, bon, ça ne serait pas si problématique. Le problème, c'est que ce n'est pas également distribué. Et au contraire, la mécanique de l'héritage va avec un renforcement des inégalités de patrimoine. Piketty l'a montré très très bien dans Le Capital au XXIe siècle. Aujourd'hui, les 10% les plus riches détiennent 62% du patrimoine total. Au XIXe siècle, c'était pire. Le moment le pire, le plus inégalitaire du XIXe siècle, c'est les années 1900-1910. Enfin, on est à la sortie du XIXe siècle. Là, c'était 80%. Les 10% les plus riches détenaient 80% du capital. Mais là, ça remonte. Depuis les années 70, ça remonte. Et ça ne cesse de monter. C'est là où il y a ce phénomène de retour. Mais la situation semble moins grave qu'au XIXe siècle. 80% sont devenus 62%. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ce que Piketty appelle une classe moyenne patrimoniale, c'est-à-dire qu'il y a des héritages aussi dans la classe moyenne, ce qui n'existait pas. Par contre, il y a une constante. Au XIXe siècle, comme aujourd'hui, la moitié de la population ne transmet presque rien. L'héritage ne s'est pas démocratisé. Au contraire, on a une très très forte concentration patrimoniale.
Le plus bizarre, et dans son bouquin, Mélanie Plouvier l'explique, c'est que l'ensemble de la population est plutôt contre la fiscalité successorale.
C'est vraiment une grande surprise. La moitié de la population française, la moitié la plus pauvre de la population française, ne transmet et donc ne reçoit quasiment rien. On est, si on coupe la population en deux, l'héritage médian, c'est 70 000 euros. Ça veut dire que la moitié de la population française transmet ou reçoit moins de 70 000 euros, dont des patrimoines négatifs, hein, des fois des dettes. Et pourtant, la population française est attachée à la transmission familiale du patrimoine. Et un des lieux où on repère cet attachement, c'est l'aversion à l'égard de l'impôt sur les successions. C'est un impôt qui est détesté. C'est même l'impôt le plus détesté de tous les impôts. Mais c'est aussi l'impôt le plus détesté par ceux qui ne transmettront rien. Et c'est là la surprise. Parce que concrètement, si vous avez peu à transmettre, vous ne paierez pas d'impôt. Toutes les transmissions en dessous de 100 000 euros ne sont pas taxées. Donc pourquoi ceux qui transmettent moins de 100 000 euros sont opposés à la taxation sur les héritages qui ne le concerneront pas, mais qui concerneront les transmissions beaucoup plus grosses et dont ces mêmes personnes pourraient profiter des effets redistributifs de l'impôt? C'est vraiment une surprise. Déjà, il faut voir que cette détestation de l'impôt sur les successions, c'est pas un truc qui vient de nulle part. Hein. Ça a été construit politiquement. En fait, le mouvement anti-taxe, un mouvement qui est né aux États-Unis autour des conservateurs américains, autour d'associations de contribuables, ce mouvement anti-taxe, il a pris pour première cible l'impôt sur les successions. Quand on déteste l'impôt, il faut quand même se poser la question, elle vient d'où ma détestation de l'impôt ? Quand vous regardez les arguments qui sont mobilisés, on parle d'une taxe sur la mort en disant mais que c'est honteux, que c'est un impôt qui arrive au pire moment, qui viendrait comme ça gréver tout le travail d'une vie. Vraiment, ce discours, c'est un discours construit politiquement qui vise à affaiblir l'État social. Si on veut des services publics, il faut de l'impôt. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on s'interroge, nous, intérieurement aussi, sur les raisons de cet impôt. Mais surtout, je pense que le problème est que la question, elle est mal posée. Si je te pose la question, est-ce que tu veux payer des impôts ? Il y a de bonnes chances que la réponse soit négative. Ou en tout cas, pour qu'elle soit positive, il faut avoir la claire conscience de tout ce à quoi ça sert les impôts. Et je vous le garantis, ça sert. Ça sert à payer des profs, ça sert à payer des routes, ça sert à payer des cours dans des universités, etc. Et je pense que ce dont on a besoin, c'est d'élargir le spectre des possibles, d'élargir notre imaginaire social et politique. Si je pose la question... Est-ce que tu es pour la transmission familiale du patrimoine ou est-ce que tu préférerais pour tes enfants on procède à une répartition plus égalitaire du patrimoine à la mort des détenteurs ? Imaginons une dotation en capital égale pour tout jeune adulte grâce à une forte fiscalité successorale. Je pense que les 50% de la population qui ne transmettent et ne reçoivent presque rien commenceraient à se dire « Ah, mais il pourrait y avoir un système redistributif du patrimoine qui ferait que mes enfants, à qui je vais transmettre pas grand-chose, pourraient commencer dans la vie d'adulte avec des chances équivalentes à celui né dans une famille plus avantagée. » Vraiment, je pense que la question est très très mal posée, la question fiscale est très très mal posée. Ce qu'il faut mettre en face, c'est des alternatives. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce bouquin, c'est que le 19e siècle, c'est un puits, c'est une mine d'alternatives, et qu'on a besoin d'enrichir. Nous ne pensons qu'en termes de fiscalité, êtes-vous pour ou plus ou moins d'impôts ? Je pense qu'il faut élargir les possibles, et que c'est pas facile, hein, parce qu'on l'a dit, on a nos évidences sur l'héritage, mais pour le coup, regardons dans le passé, il y a eu plein de propositions qui ont été faites.
Des lunettes noires sur tes yeux bleus, sous ta perruque, d'autres cheveux, tu te caches, petite fille. Sous tes fossiles coule le ricine. Ouais, 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 ouais. Tes mots souvent sonnent creux, mais c'est pas grave, petite fille. Tu pleures et c'est mieux, t'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Tu lis souvent des magazines, on dit que tu ressembles à Marilyn. Tu as le même sourire fragile, t'as même déjà joué dans un film. Ouais, 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 ouais. Tes mots souvent sonnent creux, mais c'est pas grave, petite fille. Tu pourrais soulager des marines, t'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Je veux encore te mettre une claque, mais sans te laisser de marque. Laisse-moi encore te mettre une claque, mais sans te laisser de marque. T'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Ta démarche svelte et élastique, toutes les nuits traverse la ville. Tout est précis, merveilleux. Allonge le pas pour voir un peu. Tu sors au baron, Régine. Tu te brises souvent dans l'alcool, mais tu ne couches avec personne. Ça laisse des traces indélébiles. T'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Souvent sonne creux et quelquefois j'imagine tes lèvres embrassant des vitrines. T'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Je veux encore te mettre une claque, mais sans te laisser de marque. Laisse-moi encore te mettre une claque, mais sans te laisser de marque. T'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. La petite blanche dans du poil sous les bras.
État social. Le mot ou les mots sont lâchés. Quelle société veut-on ? L'héritage est un levier très fort de justice sociale. Alors oui, élargissons les imaginaires. L'héritage familial moderne est une monstruosité sociologique, écrit Mélanie Plouvier dans le passage concernant Émile Durkheim. Très intéressant d'ailleurs, je cite. Durkheim pointe là un cercle vicieux de l'héritage familial. Comme la transmission héréditaire crée une inégalité originelle, nous cherchons à ce que nos enfants en soient le moins défavorablement affectés. Nous travaillons donc dans l'espoir de leur transmettre les fruits de notre travail. Mais par là même, nous accroissons les inégalités originelles dont nous souhaitons pourtant les protéger. Fin de la citation. En ne changeant pas la donne, on aggrave encore plus les inégalités. C'est le chat qui se mord la queue. Bref, faudrait commencer par déconstruire un peu ce truc de la famille, du biologique, du naturel.
C'est un point capital autour de l'héritage, c'est qu'effectivement, héritage va dans notre configuration contemporaine avec une certaine forme de famille. Ce qu'on appelle, en langage savant, la famille nucléaire. Grosso modo, le couple parental et les enfants jusqu'à l'âge de la majorité. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est de voir les évolutions précisément de la famille et les perturbations que ça peut entraîner dans l'héritage. Alors, je ne vais pas commencer par les évolutions contemporaines. Je vais commencer par avant. J'adore le passé. Alors là, je remonte très, 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 très en amont avec les premières formes de société. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question de... Dans les sociétés dites premières, quelles étaient les formes de la famille? C'est assez fascinant, mais la famille, c'était le clan. Dans les tribus iroquoises, dans les tribus aborigènes d'Australie, la famille, c'est le clan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille peut comprendre plusieurs centaines d'individus. Et que la manière dont on se rapporte dans cette communauté élargie, les uns aux autres, n'empruntent pas la seule voie de la consanguinité, de la descendance biologique. Donc on peut appeler par exemple mère les sœurs de la mère. C'est assez fascinant parce que nous qui avons une image toute restreinte de la famille, on voit que la famille pourrait être beaucoup plus large. Et on voit aussi que la famille peut être déconnectée de la question de la consanguinité, de la descendance biologique. Ce qui est assez fascinant, c'est que dans cette famille élargie qu'est le clan, dans les tribus iroquoises, dans les tribus aborigènes, le principe est celui du communisme familial. C'est-à-dire que toutes les choses sont possédées en commun. Et ce que montre, mais superbement, Émile Durkheim, c'est que l'héritage, donc en gros, les choses de la famille restent dans la famille. Elles sont, en fait, la famille tient par les choses de la famille. Donc c'est vraiment une structuration d'un groupe élargi autour des choses de la famille. Et ce que dit Durkheim, c'est que l'héritage, c'est ça. C'est ces choses de la famille qui font tenir la famille. Mais ce qu'il dit, c'est que cet héritage, c'est du communisme primitif. Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui tout ça? Dans la perspective de Durkheim, l'héritage, c'est un archaïsme. L'héritage, c'est un vieux reste des formes anciennes de famille, quand la famille était très très élargie et tenait par les choses de la famille. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a une forme de contradiction entre l'héritage, qui est un reste de communisme familial, et la propriété individuelle, qui devrait s'éteindre à la fin de la vie. Je trouve cette idée assez fascinante, que finalement, l'articulation famille-héritage... c'est une propriété des formes anciennes de famille. Et que dans la forme moderne de la famille, où la famille, c'est en fait un groupe beaucoup plus restreint que l'était la famille clanique, il n'y a pas de raison de continuer à structurer la famille sur l'héritage. Pour le dire en un mot très simple. Un, en gros, nos formes de famille n'ont pas besoin de la transmission d'objets pour persister. L'affect peut suffire. La famille moderne, de ce point de vue-là, c'est une famille qui est très affective, qui pourrait se passer, nous dit Durkheim, de ce substrat matériel. Et surtout, deux, il y a comme une contradiction, dont on a déjà parlé, entre notre société moderne qui est régie par le principe de propriété individuelle et cette persistance de la propriété privée sous la forme de la transmission familiale du patrimoine. Et je trouve cette idée assez fascinante. Nous pouvons penser, autorisons-nous à penser d'autres destinataires et des destinataires collectifs. Et par exemple, les auteurs que j'ai étudiés dans le bouquin, les auteurs du 19e siècle que j'ai étudiés dans le bouquin, bah, ils pensent par exemple aux groupements de travailleurs. Les syndicats pourraient être les destinataires des syndicats dont ils pensent, ils rénovent l'organisation démocratique, etc. Mais ils pourraient être les destinataires de l'héritage. Et ils pensent ça pour penser, pour chaque travailleur, un pouvoir de décision sur la production, un pouvoir de gestion sur les instruments du travail, etc. Et donc, on demeure aujourd'hui enfermé dans la question plus ou moins d'impôts sur l'héritage, et on laisse de côté toutes ces questions qui sont celles, par exemple, des autres possibles, des autres communautés qui pourraient être destinataires de l'héritage. J'ajoute un point, c'est que toute cette question est une question de, pour le dire en un mot simple, de solidarité. Quelle solidarité voulons-nous ? La question est celle des communautés dans lesquelles on se solidarise et donc dans lesquelles on s'apporte des protections. Et très concrètement, le poids retrouvé de l'héritage, l'augmentation du poids de l'héritage, ça veut dire que ce sont essentiellement des solidarités familiales qui apportent les protections. Ce qui est très bien dans les solidarités familiales, c'est qu'elles sont proches, on les comprend, on est dans l'entre-soi, etc. Le problème, c'est que c'est très inégalement distribué. Voilà. Et la distribution, bah, c'est le hasard. Est-ce que je suis née dans une famille fortunée ou pas ? Mais quand on fait ça, quand on reconstitue ainsi les solidarités familiales, quand pour s'en sortir, il faut bénéficier des solidarités familiales, ça veut dire que de l'autre côté, il y a des solidarités qui sont manquantes. Et en d'autres termes, le poids retrouvé de l'héritage se construit, s'appuie sur la liquidation de l'État social, enfin sur la déliquescence de l'État social, c'est-à-dire qu'on avait construit des solidarités à l'échelle interprofessionnelle, l'assurance chômage, les retraites, l'assurance maladie, tout ça, ce sont des protections qu'on avait construites à l'échelle de l'ensemble des travailleurs. Et bah, sur l'affaiblissement de ces solidarités et protections interprofessionnelles, bah, se reconstituent les solidarités familiales. Les solidarités interprofessionnelles, alors ou nationales ou étatiques, elles ont comme inconvénient qu'elles sont plus lointaines, on a moins la main dessus, on les comprend moins, on se demande quand je paye ma cotisation sociale, où est-ce que ça va ? Quand je paye mes impôts, où est-ce que ça va ? Ouais, mais ça redistribue, tout le monde y a le droit. Et donc, je pense vraiment qu'il faut penser l'héritage avec l'État social. C'est là tu vois, où on continue de dire que c'est une question vraiment fascinante parce que tout est vraiment lié, mais le poids retrouvé de l'héritage se fait sur la faiblesse ou l'affaiblissement en cours des protections sociales, et on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et je pense que nous avons tous individuellement à nous demander laquelle nous préférons. Moi, je connais ma réponse.
Alors, et vous, auditeurs, auditrices, êtes-vous prêts à moins d'héritage pour plus d'État social ? Dans tous les cas, Mélanie Plouvier explique qu'il faut y aller par étapes. Elle parle de gradualisme radical. Tout changer, mais en y allant mollo, sinon tout le monde va être en PLS. Alors moi, j'ai l'esprit assez pratique, je lis, j'écoute, et je me demande toujours, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est bien, ces grandes idées, c'est bien de comprendre ce qu'il faudrait faire, mais comment on fait en sorte d'implémenter ce changement dans la société, petit à petit ?
Bon, c'est là où je reviens à ta première question. Hein. Les gens comme moi, ils lisent d'abord des livres. Je suis pas une femme politique. Je ne voudrais pas l'être. Et de ce point de vue, j'ai pas un programme politique à déployer à partir de ce que j'ai fait. Par contre, je veux bien parler aux hommes politiques, aux hommes et femmes politiques. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'élargir les possibles, d'élargir notre imaginaire. Concrètement, là où moi ce détour par le 19e siècle m'apporte le plus, mais c'est pas de l'érudition, c'est pas connaître ce qui a été dit au 19e siècle pour le connaître et pour le citer. Ça, à la rigueur, on s'en fout. C'est que, en fait, ça fait deux opérations pour aujourd'hui. La première, c'est que ça apporte des idées que nous ne pensons plus. Il y a des perspectives qui s'ouvrent, qu'on avait fermées, qui semblaient closes. Mais ce faisant, et c'est là la deuxième opération, ça nous donne à voir ce que nous ne voyons plus. En comparaison, ce qui nous apparaît comme des évidences se trouve d'un seul coup déstabilisé, perturbé. Il y a comme une déflagration en se disant, mais en fait, dans mes représentations courantes, en fait, je n'interroge pas. Donc d'un seul coup, nos évidences sont un peu malmenées. Et vraiment, ce détour par le 19e siècle, là où il m'apporte énormément, c'est qu'il me permet de déstabiliser ce qui, sinon, ne se laisse pas déstabiliser parce que je le prends pour évidence. Bah oui, bien évidemment, mes biens iront à mes enfants. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en termes politiques, en termes de que faire, bon, élargir le spectre, c'est déjà intéressant. Ça a quand même une première utilité, c'est pas rien. Et donc, déjà, ça peut nourrir les débats. Enfin, si la question de l'héritage redevenait une question politique, enfin, j'en serais très, très heureuse et si j'y contribue un tout petit peu, j'en serais très fière. Mais ce que ça permet quand même aussi de voir, je prends un exemple volontairement polémique. Mélenchon, lors de la dernière campagne présidentielle, propose la chose suivante. On va taxer tous les gros patrimoines. Il propose une taxation à 100% pour toutes les transmissions de plus de 12 millions d'euros. Et il dit, en dessous, avec moi, vous ne craignez rien. Alors, l'idée d'un plafond, elle est intéressante. Je le trouve très très haut, très très élevé, parce que ça veut dire quoi? Bah, 10 millions... Avec moi, vous ne craignez rien. Enfin, c'est quand même étrange. Et surtout, vous voyez, le fait de déporter la question uniquement sur les grosses transmissions, ça fait qu'on s'interroge pas individuellement sur son propre rapport à la propriété, le fait qu'on considère qu'on a la capacité à décider de ce qui adviendra de nos biens après notre mort. Enfin, ça tue la question. Est-ce qu'il y aurait pas des systèmes plus justes? Est-ce que voilà, ouvrons la discussion. Et puis surtout le plus important, il faut en délibérer. Discutons-en, ayons une grande discussion démocratique sur quel serait le système le plus juste. S'il y avait un que faire, ça serait celui-ci, celui d'une grande délibération démocratique sur ce que doivent devenir les biens après la mort.
Voir ce que l'on ne voit plus, questionner l'évidence. Pourquoi mes biens iraient-ils à mes enfants? En tant que chercheuse, Mélanie Plouvier restitue dans son livre ses connaissances pour que nous nous interrogions. Est-ce qu'il n'y aurait pas de système plus juste? A priori, si. Et puis, il y a déjà un ou deux siècles, la question de l'héritage générait des discussions d'une bien plus grande richesse qu'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, les ultra-riches sont en mode « ouin, ouin, on nous prend tout », ils se lamentent parce qu'ils seraient imposés à 45%. Bon, alors déjà, ce taux officiel de 45% de taxation, c'est pour les successions supérieures à 1 800 000 euros, séchez vos larmes. Mais en plus, seuls 10% des très riches paient effectivement ces 45%. Alors bon, ça va les ouin, ouin. Allez, un dernier mot Mélanie.
Dans les choses qui les points de déstabilisation que les théories du 19e siècle permettent, il y a la question de la temporalité de la transmission, moi, qui m'a vraiment beaucoup frappée. Pour nous, ça nous apparaît évident que transmettre, c'est à la mort. Alors il y a cette temporalité un peu différente de la donation, où on peut donner de son vivant, mais c'est quelque chose qu'on ne donnera pas, donc qui est retiré, retranché de ce qui sera donné à la mort. Donc c'est toujours dans l'horizon de la mort que ça se joue, et toujours plus ou moins dans l'horizon familial. Y a un truc qui est fascinant au 19e siècle, c'est que la temporalité se décale. Alors on le voit tout particulièrement chez un courant de pensée qui s'appelle le saint-simonisme. On est dans les années 1830. Autant dire, il n'y a pas de système de protection sociale à l'époque, etc. Et il y a un groupe d'individus qui se réclament de Saint-Simon et qui militent pour l'abolition de l'héritage. C'est leur mot d'ordre. À bas l'héritage. Il faut complètement supprimer toute transmission héréditaire. La Révolution française a aboli la transmission héréditaire du pouvoir politique, le roi... pouvoir royal qui se transmettait de père en fils. La Révolution française a aboli la transmission héréditaire des professions, le fait que un office, une charge publique se transmettait aussi de secrétaire du roi, ça se transmettait de père en fils. Les Saint-Simoniens disent la Révolution française n'a pas été assez loin. Il restait une dernière étape à franchir, elle s'est arrêtée en chemin. Il faut aussi abolir la transmission héréditaire de la propriété. Et donc, c'est vraiment leur mot d'ordre. Il abat l'héritage, abolition complète de toute transmission héréditaire du patrimoine. Et il propose de mettre à la place ce qu'ils appellent le principe de capacité, c'est-à-dire le fait qu'on accède à une position parce que on en est capable, on le mérite, on a déployé des efforts, etc. Et ils inventent un système de société. Enfin, ils théorisent un système de société dans lequel il n'y a plus aucune transmission héréditaire. Donc, se pose la question les moyens de production, comment on les transmet et comment ça se passe. Et là, ils inventent une procédure publique démocratique de transmission dans laquelle la transmission des moyens de production ne se fait pas à la mort, mais à la retraite. C'est logique. En d'autres termes, on a des moyens de production qui sont socialisés, mais que l'on confie à des gestionnaires individuels. Donc en gros, l'usine ne m'appartient pas, je la gère. Seulement, je ne la transmettrai pas à mes enfants, vu que je n'en suis pas propriétaire, j'en suis un simple gestionnaire. Et puis, je ne vais pas la transmettre à ma mort, je vais la transmettre au moment de mon départ à la retraite. Et ce qui est absolument génial, c'est que cette pensée de l'abolition de l'héritage va avec, chez les Saint-Simoniens, une pensée de la nécessité de construire un système de retraite. Parce que, si les individus ne sont à la retraite, laissent la gestion des moyens de production, il faut quand même qu'ils vivent. Et donc, il faut mettre en place des retraites. Et là, on voit encore ce lien qui est en train de se constituer au XIXe siècle entre reconfiguration de l'héritage et formation de l'État social. Et il faut bien y réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important dans la transmission, dans cette transmission qui est décalée de la mort à la retraite, c'est que ce n'est pas simplement la transmission de biens. C'est la transmission de compétences, c'est la transmission de savoir-faire. C'est la transmission de, qu'est-ce que j'ai construit au cours de ma vie et ayant construit cela, et vous voyez, ce n'est pas simplement des biens. C'est qu'est-ce que j'ai apporté, quelle a été ma contribution propre à l'humanité et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça perdure, quelle est la meilleure manière de mettre cette contribution en valeur pour la suite. Et ça, c'est pas forcément ces enfants qui peuvent mettre ça en musique.
Waouh! Penser une cotisation sociale post-mortem, c'est-à-dire une possibilité de financement complémentaire qui assurerait une protection sociale forte pour tout le monde grâce à une redistribution plus égalitaire des richesses accaparées par les morts. Trop stylé. Nationaliser, socialiser les biens des morts, oui, pourquoi pas. Vu l'injustice sociale aujourd'hui, essayer un peu de justice fiscale, ça peut pas faire de mal. Alors l'abolition de l'héritage, ça va être compliqué à faire passer tout de suite, mais ne nous privons pas d'y réfléchir. N'oublions pas que les 50% des plus pauvres en France possèdent moins de 5% du patrimoine total. Faut quand même être sacrément égoïste ou sacrément stupide pour ne pas y voir un problème de société majeur. Et puisqu'on parle d'injustice de l'héritage, parlons des poils. En voilà un truc injuste ou pas, qu'on hérite en tout cas de notre famille biologique en général.
C'est une question, je comprends pas. Enfin, le fait par exemple de s'épiler, de ne pas réussir à sortir dehors en jupe, parce que si je suis pas épilée, je suis parfaitement consciente que c'est un mécanisme de domination masculine. Pour autant, j'arrive pas à m'en soustraire. Voilà. Donc, ce qui fait que effectivement, je m'épile, je serais mal à l'aise de pas le faire. Et c'est là où je vois à quel point j'ai intériorisé ces mécanismes, puisque je les vois Je saisis ces mécanismes, mais pour autant, je ne parviens pas à m'en défaire. J'ai beaucoup vécu aussi à la campagne, et c'était pareil. Donc, je pense qu'on l'a plus ou moins toutes intériorisé. Peut-être que la jeune génération, mes étudiantes, par exemple, ne vivent pas les choses de la même manière. Il y a une question générationnelle aussi là. Je pense qu'elles s'en sont beaucoup plus libérées que moi. Voilà.
Il faut repenser l'héritage, c'est un sujet hautement politique. Quand par exemple un gouvernement cherche quelques milliards pour les retraites, ce serait bien qu'il se penche sur la question de l'héritage. Merci à Mélanie Plouvier de rouvrir nos imaginaires. Par les temps qui courent, on en a bien besoin. Allez, nous on se retrouve dans Du Poil sous les bras le mois prochain sur les ondes et sur Internet d'ici là.